Nous allons parler des anémies par hémolyse. On parle de destruction trop importante de globules rouges, donc d'hyperhémolyse. L'hémolyse, l'hyperhémolyse, c'est quoi ? C'est quand les globules rouges ont une durée de vie diminuée parce qu'ils sont détruits exagérément. La destruction se fait le plus souvent dans un environnement extravasculaire, mais elle peut se faire également en intravasculaire. Concrètement, lorsque les globules rouges ont une durée de vie qui est inférieure à 120 jours et que le stock de globules rouges dans la circulation diminue, on voit apparaître une anémie. Et cette anémie, par destruction importante, trop importante, est dite hémolyse, anémie par hémolyse. Il y a plusieurs causes. Alors, ce qu'il faut bien sûr comprendre, c'est qu'en fonction de la rapidité de l'installation de cette anémie, les signes cliniques peuvent être plus ou moins visibles. En cas d'anémie aiguë, on voit plus de choses, a priori, qu'en cas d'anémie d'installation chronique. On peut bien sûr retrouver les stigmates de cette destruction à travers des prélèvements biologiques. Nous allons voir que, fondamentalement parlant, on peut retrouver les produits de dégradation des globules rouges à travers ce qu'on appelle la bilirubine. Alors, les hémolyses peuvent être acquises, c'est-à-dire que durant la vie du patient, on voit arriver ce phénomène qui est donc acquis. Elles peuvent être constitutionnelles, donc liées à la personne à travers certaines anomalies génétiques notamment. Alors, donc, comment peut-on dire qu'il y a anémie par hémolyse ? Ben, ça se voit, bien sûr, à l'interrogatoire d'une part pour orienter le diagnostic et puis on confirme tout ça sur un plan biologique par ce qu'on appelle la numération de la formule sanguine où on a un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 13 chez l'homme, 12 chez la femme et l'enfant et 11 chez la femme enceinte. Donc sur un plan biologique, on a des réticulocytes qui sont dosés très souvent, très augmentés au-dessus de 100 000, ce qui veut dire que les anémies par hémolyse sont d'origine donc extra-moelle osseuse. Donc la moelle osseuse est obligée de carburer et envoie dans le système circulatoire des réticulocytes. Donc c'est une anémie qui est dite régénérative parce qu'on a dans le sang des réticulocytes en grand nombre anormalement. Il faut bien sûr doser le fer, l'haptoglobine, la bilirubine dite libre et la bilirubine conjuguée. La bilirubine libre, c'est le fruit de l'hémolyse des globules rouges, tout simplement. La bilirubine conjuguée a été conjuguée après un passage dans le foie, donc à travers un système de macrophages, de cellules qui digèrent donc ou qui absorbe donc la bilirubine libre. Bien entendu, quand on fait les analyses, il ne faut pas oublier de rechercher ce qu'on appelle les agglutinines irrégulières, compléter le bilan par une numération de plaquettes, faire un bilan d'hémostase, doser le fibrinogène, rechercher donc les agglutinines irrégulières, je l'ai dit, et puis déterminer le groupe sanguin, parce qu'il faudra probablement transfuser. On peut compléter le bilan par un frottis des hémocultures, surtout quand il y a un doute de sepsis, de syndrome septique plus exactement, et rechercher des petits globules rouges qui sont cassés. On parle de schizocytes, ça se voit sur l'animation de la formule sanguine. Et en fait, les schizocytes que l'on retrouve signe en quelque sorte une destruction mécanique extracorpusculaire. Concrètement, c'est par exemple les patients qui ont des valves cardiaques et à force de claquer, ces valves cassent les globules rouges, on parle de schizocytes. Donc, frottis, hémoculture, recherche de schizocytes, test de Coombs, et puis électrophorèse de l'hémoglobine, et surtout, lorsqu'on fait une étude des anomalies de l'hémoglobine, on parle d'hémoglobinopathie. Alors, sur un plan clinique, comment ça se passe? En cas d'hémolyse aiguë, tout simplement, le patient n'est pas très bien parce que son corps n'a pas eu le temps de s'adapter, il est tachycarde, il présente une pâleur, une polypnée, et en fonction, il peut y avoir frisson, fièvre en cas de sepsis. Et puis, à l'examen clinique, on va retrouver éventuellement, mais ça arrive tardivement, un ictère. On peut constater une splénomégalie, puis des signes de choc, tout simplement une oligoanurie, baisse de la tension. Dans certains cas, si ça va très très loin, on peut avoir des signes de coagulation intravasculaire disséminée. Ce sont des patients qui sont choqués et qui saignent tout simplement parce que les facteurs de la coagulation sont consommés. Donc, dans la coagulation intravasculaire disséminée, ce sont des patients qui saignent de partout. On peut voir également s'installer une insuffisance rénale aiguë liée à une tubulopathie interstitielle, donc une néphropathie tubulaire aiguë avec des nécroses tubulaires. Concrètement, le rein est encrassé et il nécrose et s'installe une insuffisance rénale aiguë organique. Lorsque l'hémolyse est plutôt lente, chronique, on voit un ictère cutanéo-muqueux. Et puis des signes qui expliquent peut-être l'hémolyse, une splénomégalie. Et bien sûr, des signes d'anémie, donc le patient qui est asthénique, tachycarde et pâle. Quelques éléments paracliniques, notamment biochimiques, qui peuvent orienter l'étiologie, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une étiologie par hémolyse extravasculaire. Extravasculaire, c'est-à-dire que la destruction se fait en dehors des vaisseaux, ou est-ce qu'il s'agit d'une hémolyse intravasculaire. Donc, dans les hémolyses extravasculaires, on a bien sûr une anémie de type régénératif, c'est-à-dire que les réticulocytes sont au-dessus de 100 000, 120 000. On a dans l'extravasculaire une anémie qui est normochrome, normocytaire. On n'est pas du tout dans le cadre des anémies carentielles, donc microcytaires ou inflammatoires, donc microcytaires, ou des anémies par carence en vitamines, donc macrocytaires. Là, on est dans du normocytaire, normochrome, régénératif parce que la moelle fonctionne. Et dans le cadre donc de cette hémolyse extravasculaire, on a de la bilirubine non conjuguée qui est élevée. La bilirubine non conjuguée est élevée. Ce qui veut dire que le foie, en fait, il élimine, il essaie de capter les. Et il fabrique de la bilirubine non conjuguée. Alors, dans le cadre des anémies intravasculaires, donc dans les vaisseaux, bien sûr, elle est aussi régénérative, elle est normochrome, normocytaire. Et là, on a, quand on dose l'hémoglobine, on a une hémoglobinémie élevée, c'est-à-dire que l'hémoglobine est augmentée dans les vaisseaux, ce qui témoigne donc d'une lyse intravasculaire. Donc l'hémoglobinémie est élevée. Et donc, comme c'est le rein qui élimine l'hémoglobine, on se retrouve dans un contexte avec, au niveau urinaire, une hémoglobinurie. Alors, on peut doser aussi le fer sérique. On va retrouver de la même façon une bilirubine dite libre. Donc, une bilirubine qui est, elle aussi, augmentée. Les réticulocytes sont supérieurs à 120 000, je l'ai dit. Dans les deux cadres, dans le cas donc des anémies par hémolyse, on a une autre protéine qui n'est plus dosée systématiquement, mais qui est utilisée en médecine interne. On parle d'haptoglobine. L'haptoglobine est effondrée dans les deux cas, à savoir dans les hémolyses intravasculaires et dans les hémolyses extravasculaires. Rapidement, je cite les étiologies des anémies, donc par hémolyse. On a des causes dites corpusculaires. Ce sont les hémoglobinopathies, par exemple les thalassémies, donc alpha-thalassémie, bêta-thalassémie. Ce sont donc des maladies de l'hémoglobine qui n'est pas de bonne facture, liées essentiellement à une transmission héréditaire, donc la thalassémie, la bêta-thalassémie, qui induit donc ces hémolyses, ce sont des hémoglobinopathies. On a à côté, bien sûr, la drépanocytose, donc la drépanocytose qui est une forme d'hémoglobinopathie. Et en fait, en fonction du type de drépanocytose, cela peut être plus ou moins compliqué. Donc, thalassémie, bêta-thalassémie, alpha-thalassémie et tout ce qui est drépanocytose, ce sont des hémoglobinopathies. On peut avoir des anomalies corpusculaires donc liées aux enzymes, donc les enzymopathies, notamment les déficits en G6PD. On parle de déficit en G6PD. Voilà donc une autre forme d'hémoglobinopathie. Donc on a des anémies corpusculaires, hein, donc hémoglobinopathie, difficultés liées aux enzymes. Et on a également donc des anomalies de la membrane des globules rouges. Donc tout ça c'est héréditaire. Hein. Cette fameuse maladie dite de Minkowski-Chauffard. Donc ce sont des globules qui n'ont pas une forme correcte. On parle de sphérocytose héréditaire, la maladie de Minkowski-Chauffard. Donc là, les pathologies liées au globule rouge lui-même, hein, héréditaire, donc maladie des membranes, le Minkowski-Chauffard, on l'a. Les hémoglobinopathies, les enzymopathies, déficit en G6PD. On a aussi donc des maladies une maladie un peu curieuse, le Marchia fava Micheli, qui est une hémoglobinurie paroxystique nocturne. Concrètement, en fait, elle associe sur un fond dit d'hémolyse intravasculaire chronique. Des patients qui ont des douleurs abdominales et lombaires, des thromboses artérielles et veineuses qui peuvent causer le décès, une splénomégalie modérée et des épisodes d'hémoglobinurie intermittente qui arrivent la nuit, donc pendant le sommeil, et qui peuvent être déclenchés par des vaccinations, des transfusions, des infections. Bref, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne signe une fragilité. C'est la maladie de Marchia fava Micheli. Et on voit apparaître par moments des épisodes hémorragiques ou des infections répétées, notamment urinaires. Voilà, donc ça c'était les causes corpusculaires. On a aussi les causes dites extra-corpusculaires qui sont acquises. Hein, donc, notamment tout ce qui est mécanique. Donc mécanique, c'est quoi? C'est par exemple les cardiaques, j'en parlais, les porteurs de valves. On a les patients qui peuvent faire l'objet de micro-angiopathie, notamment le syndrome hémolytique et urémique de l'enfant qui associe fièvre, ictère, insuffisance rénale, des troubles neurologiques. Donc la micro-angiopathie, le syndrome hémolytique et urémique. Dans les mécaniques, donc bien sûr, tout ce qui est valve, on a parlé. Et puis, on peut avoir des causes toxiques. Les causes toxiques, c'est les médicaments, les antipaludéens, l'aspirine, tout ce qui est vitamine K, ce sont des produits, les sulfamides, qui peuvent causer, par un principe toxique, des hémolyses. On a des causes professionnelles, notamment tout ce qui est nitrobenzène, le naphtalone, les sulfates de cuivre, des exposants aux toluènes. Donc, on peut se retrouver avec des produits au niveau industriel qui peuvent, par un principe toxique, créer une hémolyse. D'autres causes, hein, bien sûr, bien connues, c'est le venin de serpent, les piqûres d'araignées, de guêpes, l'absorption de champignons. Et on a l'intoxication par le plomb. L'intoxication par le plomb qu'on voyait à une époque parce que le plomb était mis dans les peintures. Les enfants qui pouvaient gratter comme ça le plomb sur les peintures et manger, donc ça crée un saturnisme. Donc intoxication par le plomb. On a une anémie hémolytique qui est donc secondaire à un trouble de synthèse au niveau enzymatique. Et on a des globules rouges qui sont dits ponctués. Concrètement, le saturnisme, c'est quoi? C'est des douleurs abdominales, une hypertension artérielle, une paralysie périphérique, pseudo-radiale, et puis le fameux liseré gingival bleuté, le tout associé à une anémie modérée. On a vu les mécaniques extracorpusculaires, les toxiques, les infectieux maintenant. Les infectieux, ce sont des bactéries qui vont, dans le cadre, par exemple, d'une endocardite, d'une tuberculose, d'une fièvre typhoïde, créer quelque part une hémolyse. On a d'autres bactéries plus classiques, hein, Escherichia coli, les streptocoques bêta-hémolytiques, le staphylocoque, le mycoplasme. Le tableau est tout simplement lié à une infection. On a donc oligoanurie, collapsus, ictère, les fièvres, avec apparition d'une CIVD et l'installation d'une néphropathie tubulo-interstitielle aiguë. Sur un plan biologique, en fait, tout se dégrade, tout ça dans un contexte infectieux. Au-delà donc des infections bactériennes, on a les infections parasitaires, par exemple le paludisme. Le paludisme crée dans son accès pernicieux, dans la crise paludéenne, une hémolyse qui va évoluer. Ça peut induire aussi une neutropénie, donc les globules blancs, une monocytose qui signe donc le processus infectieux, donc augmentation des monocytes. Et là, une réticulocytose basse, la présence dans le sang au frottis de Plasmodium falciparum. On peut voir le Plasmodium falciparum au frottis et la goutte épaisse. Donc, au niveau corpusculaire, nous l'avons vu. Il s'agit donc des anémies infectieuses, les anémies mécaniques, on a vu le toxique, et puis il y a bien sûr dans les anémies extracorpusculaires toute la gamme des pathologies immunitaires. Les pathologies immunitaires, donc où il faut quelque part faire ce qu'on appelle le test de Coombs, le test de Coombs qui traduit la fixation des anticorps sur les globules rouges. Donc on voit finalement les anticorps qui se fixent dans un processus immunologique sur les globules rouges et ça crée leur destruction. On a les hémolyses auto-immunes, qui, quelque part, c'est le corps qui part dans tous les sens, quoi. Par exemple, les maladies, le lupus érythémateux aigu disséminé, la sclérodermie. On a tout ce qui est syndrome lymphoprolifératif. On a des pathologies très complexes que je ne peux pas décrire ici. Par exemple, la maladie de Waldenström. Toutes ces pathologies vont, dans un processus immunologique, créer des anticorps qui vont se coller sur les globules rouges et créer donc leur destruction. Voilà les grandes lignes sur les anémies hémolytiques.